en direct du Salon de l'Agriculture, stand Région Occitanie. Sud Radio, ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h30.
Et ça roule en direct du Salon International de l'Agriculture. Salut mon Pierrot.
Salut ma Lolo, comment ça va?
Bah super, oh la vache, t'as vu, ils sont
tous en forme.
Ils sont beaux, magnifiques, génial. Je vais aller voir les vaches montagnardes, moi j'en reviens, qu'est-ce que c'est bon, ça fait du bien, regarde moi. Salut mon Gaspard.
Salut Laurent, salut Pierre, bonjour à tous.
T'as l'air en forme.
On est là depuis 7h.
Hein. Depuis 7h en direct, puisque les émissions ont lieu toutes pratiquement en direct du salon. Ça va toi, t'as fait la route, t'as roulé toute la nuit toi?
Moi j'ai roulé de nuit, voilà. J'ai fait, t'as volé de nuit comme Saint-Exupéry, ouais. Moi j'ai fait rouler de nuit comme Laurence Perrault. J'étais à 7 ce matin, région Occitanie.
Et là t'arrives à 4.
J'ai pris la voiture à minuit et je suis arrivé à 5. Au Salon de l'Agriculture pour te retrouver. Nous voilà tous les deux et tous les trois avec Gas et toute la bande et Jean-Baptiste.
Et toute l'équipe et Maxou qui réalise également cette émission. Et puis vous, au 0826 300 300. Attention, trois gros sujets. On va commencer dans quelques instants, juste après le journal de Gaspard.
Gros, je pense qu'il va apprécier.
Non, je parle pas de Jean-Baptiste Yoska, je parle du sujet retour aux 90 km/h pour
vous. Ça commence très très bien.
Bonjour maître.
Bonjour ma chère Laurence, comment ça va?
Mais carrément super bien. Bonjour.
Quel plaisir d'être là. Vous imaginez pas.
Et puis on va parler aussi de la mobilité électrique dans nos campagnes avec le président d'Electric Road. Ce sera à midi moins quart.
Parce que très souvent on a tendance à croire que le véhicule électrique c'est un véhicule urbain. Le véhicule électrique finalement, là où il a peut-être le plus sa raison d'être, c'est en utilisation comme un second véhicule lorsqu'on habite peut-être en zone rurale. On va en parler dans quelques instants.
Et puis on parlera aussi, puisque nous sommes sur le Salon International de l'Agriculture, sur le stand de l'Occitanie qui nous accueille toujours avec énormément de chaleur humaine. Eh bien on va parler du bioéthanol.
Est-ce que tu sais dire ouais?
Ouais.
Alors on va la faire. Est-ce que t'as envie de payer ton carburant moins cher?
Ouais.
Est-ce que t'as envie de faire des économies?
Ouais.
Est-ce que t'as envie d'économiser 500 euros par an?
Ouais.
Eh ben on va parler du bioéthanol.
Et pourquoi on va parler du bioéthanol? Parce que ce carburant qui est issu de la culture de betteraves françaises, on est donc sur le salon international.
Sucrière.
Oui, et française.
Et française.
Et française, en tout cas pour l'instant. Etienne Don, allez, on va faire un petit tour sur l'actualité de la route et c'est Gaspard qui s'y colle.
Sécurité routière, le nombre de morts sur les routes augmente de 9,7 points en janvier. Ces chiffres viennent contrarier la tendance historiquement basse enregistrée en 2019 sur les routes de l'Hexagone, avec 260 personnes décédées en janvier 2020 contre 237 par rapport au même mois de l'année dernière, avec notamment de mauvais chiffres chez les 18-24 ans. En revanche, la mortalité des piétons est en baisse. Pierre, bravo, on repasse à 90 et la mortalité routière explose.
Alors mon Gaspard, ça faisait très longtemps que tu n'avais pas eu ta fessée. Donc ça y est, c'est l'heure. Alors non, l'année 2019 n'a pas été le record historique de sécurité routière.
C'est ce que dit la sécurité routière.
C'est faux. En fait, la sécurité routière, ils ont fait leur micmac, ils ont enlevé ce qui les dérangeait, ils ont enlevé les chiffres des dom-toms, ça les arrangeait pas. La réalité, c'est que la meilleure année de sécurité routière, c'était 2013. Et à l'époque, si ma mémoire est bonne, le panneau sur le côté de la route, c'était bien 90 km/h. Donc, non, ça ne fonctionnait pas. On n'a pas sauvé de vie avec ce 80 km/h. Et quand bien même on aurait pu avoir un peu un débat de chiffres, en tout cas le mois de janvier 2020 vient plus que contrarier la sécurité routière, puisqu'avec une augmentation de 10% du nombre de tués, c'est bizarre. Alors quand je résume, quand il y a une amélioration de la sécurité routière, on nous dit que c'est grâce aux mesures du gouvernement et donc grâce aux 80 km/h. En revanche, quand ça se dégrade, c'est la faute des automobilistes, bien évidemment. Alors non, la réalité, c'est que le 80 n'a sauvé aucune vie. On s'en rend bien compte au quotidien.
L'industrie automobile pourrait bientôt connaître une pénurie de pièces détachées à cause du coronavirus. C'est le cas, par exemple, de Jaguar, qui connaît des contraintes et pourrait connaître des problèmes d'importation de pièces venant de Chine. Renault est aussi touché. La faute à Nissan. Le constructeur automobile japonais a annoncé qu'il repousse finalement la réouverture de ses deux usines en Chine situées près de l'épicentre de l'épidémie du coronavirus, ce qui pénalise directement le constructeur français. Pierre, on le sait, beaucoup de pièces viennent de Chine, ce qui risque de poser problème sur le long terme.
Oui, alors c'est toujours rigolo, j'aurais presque envie de faire un parallèle, ça c'est le coup qui passe pas ça, j'ai presque envie de faire un parallèle entre les pièces qui sont fabriquées ailleurs sur nos voitures françaises. Donc c'est bien la preuve, si on avait encore un petit doute là-dessus, que la plupart des véhicules sont construits à l'étranger. Maintenant, il risque d'y avoir des conséquences, mais vous savez, on aime bien lancer des alertes comme ça, c'est comme sur les carburants, attention, ça va être la pénurie, il n'y aura bientôt plus rien, du coup tout le monde file à la pompe, à la station-service. Donc un conseil, ne filez pas chez votre garagiste pour acheter des pièces d'avance. Normalement, tout devrait bien se passer.
Depuis 3 ans, les entreprises ont l'obligation de désigner l'identité des collaborateurs ayant commis des infractions au volant de véhicules appartenant à la société. Selon plusieurs études, elles seraient aujourd'hui plus de 80% à le faire contre seulement 10% avant 2017. Une démarche que plusieurs spécialistes du logiciel pour flotte se proposent aujourd'hui d'accompagner à travers des services en ligne dédiés et sur mesure. Pierre, finalement, la mesure est passée depuis maintenant 3 ans. Est-ce qu'avec le recul, vous avez trouvé un peu de positif à cette mesure?
Franchement, dois-je répondre?
Bah oui.
Bah allez-y. Hein.
Non. Je ne peux pas trouver quelque chose de positif là-dedans.
Eh bien, merci beaucoup pour le point complet de cette semaine sur l'actu Ça roule. Dans quelques instants, en compagnie de notre invité, Maître Yoska, Jean-Baptiste Yoska, qui, je vous le rappelle, est avocat spécialisé en droit routier, on va revenir sur le 90 km/h, le 80 km/h. Et évidemment, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Vous nous appelez, vous nous donnez votre avis au 0826 300 300. On vous attend, Ça roule avec vous jusqu'à 12h30. Et nous sommes en direct du Salon international de l'agriculture sur le stand d'Occitanie qui nous accueille aujourd'hui, Hall 1, allée D, en face les moutons.
En direct du Salon de l'agriculture.
Sud Radio.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et si vous passez tout au long de cette belle Salon international de l'agriculture, belle semaine, vous venez nous rejoindre sur le stand d'Occitanie. On est Hall 1, allée D. Et on passe de bons moments. Alors là, ça va commencer peut-être à être un petit peu moins drôle, Pierre, parce qu'on va revenir sur un sujet qui a fait presque sortir la France également dans les rues et qui a fait hurler les gens, le 80 km/h.
C'est le sujet finalement qui a mis le feu aux poudres sur avec les carburants sur les gilets jaunes. Ça a été la première mesure que le président de la République a entérinée et qui a été à l'encontre de la population. Ce 80 km/h a fait beaucoup de mal. Et quoi qu'on en dise aujourd'hui, eh bien, on voit encore que dans les départements, dans la France rurale, où on a le plus besoin de sa voiture, eh bien, manifestement, la pilule du 80 km/h n'est toujours pas avalée. Bonjour, Maître Yoska.
Bonjour.
Comment on va?
Bonjour. Bah,
écoutez, très bien, mais je bois vos paroles parce que je suis exactement du même avis. C'est-à-dire qu'on nous a fait encore la différence entre Paris et le reste de la France, et on a voulu absolument impacter la province. Et c'est la province qui a été impactée par le 90 km/h, pas Paris, bien évidemment. Et c'est aujourd'hui au Salon de l'agriculture qu'on s'en rend plus compte, puisque tous les gens qu'on croise aujourd'hui sont des gens qui sont impactés par cette mesure délirante qui n'a servi à strictement à rien, et d'ailleurs qui est moribonde alors qu'il est, il faut bien le dire.
Ouais,
c'est-à-dire qu'ils sont en train de se rendre compte que ça ne servait à rien, et puis ils se disent qu'éventuellement on va peut-être revenir en arrière, mais on va en parler.
Alors grosso modo, si on veut vraiment faire un point, il y a les départements qui restent à 80. Comme la Loire-Atlantique, si vous avez envie de rouler vraiment très lentement, vous pouvez y aller de ma part. Et ensuite, vous avez tout un tas de départements qui ont décidé de passer entièrement l'intégralité des routes du département à 90. C'est le cas notamment de la Corrèze, c'est le cas notamment du Cantal. Et puis, vous avez tous les autres départements qui sont un peu mi-figue, mi-raisin, qui se disent « je vais en passer 2-3 pour être réélu, mais en même temps, j'ai un petit peu peur des conséquences sur la population ». J'ai envie de dire, ça c'est le cas de la Seine-et-Marne en région parisienne. C'est un département profondément rural, on est proche de Paris, mais il y a quand même un gros aspect ruralité. On a grosso modo 60% du trafic routier qui emprunte certaines routes qui vont repasser à 90. Mais on sent une réticence chez les élus. Maître Yoska, c'est quoi qui a créé cette réticence? Est-ce que c'est la culpabilisation qu'a essayé de mettre en place le Premier ministre?
Ah oui, bien évidemment, il y a une culpabilisation. Vous avez vu la politique délirante du Premier ministre qui nous a expliqué que, attention, si on revenait à 80 km/h, les personnes qui ont repris cette décision vont avoir du sang sur les mains. Ouais. Enfin, on nous a raconté tout et n'importe quoi. J'aimerais revenir sur les deux départements qui reviennent à 80 km/h. C'est pas pour rien que c'est des départements particulièrement pauvres. C'est des départements uniquement ruraux. Et justement, qui ont du mal à tirer leur épingle du jeu de l'économie française. Donc, c'est eux qui ont voulu.
C'est pas trop le cas, excusez-moi, Maître Yoska, pour la Seine-et-Marne.
Non, mais sur les deux, tu passes intégralement à 90.
Ah,
passes intégralement à 90.
La prochaine fois, je vous promets, je vous écoute.
vous venez de me briser le cœur, Laurence. Mais tout ça pour dire que les deux départements qui disent 80 km/h, on n'en veut pas, on revient à 90 km/h, c'est des départements qui ont beaucoup de mal économiquement et qui voulaient absolument pouvoir envoyer le message à leurs électeurs de dire « Nous, on se fout de ce que fait la Paris, on revient à 90 km/h parce que si on nous impose ça en plus, ça va être une catastrophe. »
Tiens, moi, je me pose une question, Laurence, et vous pouvez nous appeler d'ailleurs au 0826-300-300 pour nous donner votre avis. Mais autour de nous, là, on a pas mal de gens qui sont là. Je vais poser une question. Qui est pour le 80 km/h ?
Alors là...
Levez les mains, mais c'est pas...
Non, personne.
Il y a quelqu'un qui sourit à notre question.
Et qui est contre ? Qui trouve que c'est une hérésie de passer à 80 km/h ? Tiens, monsieur, tiens, venez me voir.
Non, mais il veut pas. Venez me voir. Juste une question également, parce que en fait, on a vu qu'il y avait pas mal de départements qui tentent de repasser à 80 km/h, et il y a une nouvelle pas loi, mais en tout cas, on les a un petit peu empêchés de le faire, parce qu'il faut que ce soit fait dans des conditions précises, dans des routes précises,
etc. C'est bien pire que ça, Laurence. Tu as vu comment
c'est fait. Donc en fait, c'est de la manipulation également.
La difficulté, c'est que les présidents départementaux, on leur a envoyé une feuille de route en leur disant, voilà. Si vous voulez repasser des routes à 90, ce qu'on vous conseille, nous, État, c'est que la route soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, il y avait un tel cahier des charges qu'il y avait des départements comme les Yvelines, où le président des Yvelines, il a regardé, il a dit « Moi, je peux passer 0 km de voirie à 90 km/h ». Mais attention, là où les présidents départementaux ne disent pas tout, c'est que ça, c'est une recommandation gouvernementale.
C'est pas une obligation.
C'est pas une obligation.
Sauf que derrière, excuse-moi, mais le côté un peu caché, c'est vous faites ce que vous avez envie. Nous, on vous recommande de pas le faire. Mais si vous avez des accidents et ou des morts à cause d'un passage à 90 km/h sur le national, ce sera de votre faute. Donc, on induit cette chose-là.
Et puis, alors, moi, ce que je trouve aberrant, Maître Yoska, c'est que celui qui a pris la décision, la mesure, qui l'a conduite, c'est-à-dire le délégué interministériel à la sécurité routière, qui nous a expliqué pendant 2 ans que c'était la seule façon d'atteindre 2000 tués sur les routes, on est à 3500. Quand même pour la bagatelle, eh bien celui-là, il part le 28 février. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Il porte une mesure qui emmène tout le monde droit dans le mur. On ne gagne aucune vie sur les routes parce que les 450 vies sauvées par an, on n'en a pas vu le bout du nez. Et au final, bah, lui, il s'en va. C'est pas mal.
C'est particulièrement dommage, vous voyez, parce que Emmanuel Barbe, justement, a porté cette mesure et s'en va. D'ailleurs, on lui fera peut-être une émission pour lui dire à quel point ça a été un contradicteur intéressant et à quel point il nous a apporté des éléments de réponse et à quel point on a aimé débattre sincèrement avec lui. Maintenant, ce que je vois, c'est que lui partant, est-ce que c'est un désaveu ? Est-ce qu'éventuellement le gouvernement n'a pas voulu le suivre ? Est-ce qu'il en avait marre de cette mesure ? Ou peut-être tout simplement, et on peut extrapoler, hein, Pierre, peut-être que tout simplement, lui-même se sentait en difficulté à essayer de maintenir cette mesure coûte que coûte, et il a été désavoué par le gouvernement, il a fini par dire au gouvernement que c'était un problème, et qu'on l'a invité à partir. J'en sais rien.
Sacré numéro de jaquette, hein, parce que...
Alors. On a David qui est au téléphone, qui nous appelle pour réagir, mais on a aussi quelqu'un qui... Voilà, parce qu'on est en direct sur le Salon international de l'agriculture, donc, et tu le fais très bien, Pierre. Les gens nous parlent, donc on vous invite à prendre la parole. Bonjour, quel est votre prénom ?
Pascal.
Alors Pascal, voilà, parlez bien à côté du micro.
Pardon, est-ce que moi je ne suis pas un adepte ?
Non, mais allez-y bien.
Oui, ça y est.
Donc, rapprochez-vous.
Tout simplement, oui, ce que je vous disais, je suis donc au Marnais, nous sommes le premier département donc, à être, où le président du conseil départemental a mis en place les 90 km/h.
Il a refusé le 80, il a remis 90.
Il a refusé le 80, oui, parce que pour lui, c'était une hérésie, c'est une hypocrisie. Par contre, on voit nos routes, effectivement, qui se dégradent de plus en plus. On voit des comportements de plus en plus anormaux. On voit, voilà, donc moi, pour moi, ce n'est pas le 80 qui va économiser des vies. Enfin, je reste persuadé là-dessus. Il y a tout un problème de comportement.
Il y a les chiffres, hein, Pascal.
Oui.
2013, 3450 tués sur les routes. 2019, 3450 tués sur les routes.
Au d'accord.
Bout d'un moment, je veux dire, les chiffres, vous savez, ils sont implacables. Quand c'est les mêmes, on peut tortiller dans tous les sens.
Non, mais tout à fait.
Oui. Mais ça ne marche pas. Oui. Alors vous êtes au Marnais, vous êtes d'où ?
Langres, à côté du plateau, à Longeau, 10 km au sud de Langres.
Il y a du très bon fromage. Hein.
Ah, bah, tout à fait.
vous avez bien compris qu'ici, autour de la table, 80, on n'est pas convaincu. Mais...
Ah bah, quoi que vous soyez, je serai contre.
Je me fais pour une fois, entre guillemets, l'avocat du diable. Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien, 80 ou 90 ?
Écoutez, nous, depuis qu'on est passé, c'est peut-être tout idiot, mais 10 km/h, je trouve que c'est un confort, le 90. Autant je pense qu'on est plus attentif à la route qu'à 80, où on s'ennuie. C'est d'un ridicule. On a des belles lignes droites, on a un très, très beau département. C'est pas l'histoire du temps économisé. Parce que bon, c'est sur nous, sur le...
Ah, mine de rien.
Oui, j'ai des petits parcours, ça ne va pas chercher loin. Bon, ouais. Par contre, ce qu'on voit sur le bord des routes, effectivement, je veux dire, on voit des radars, on voit des tas c'est de choses. Ça. Tout est cramé, tout est...
C'est
ça. Il arrive un moment où tout a ses limites.
Et là, et Pascal, il a tout dit.
Et parce c'est que ça, mais...
C'est pas le 80 ou 90 qui gêne. C'est la sanction potentielle pour un excès de vitesse qui n'était pas dangereux.
Ça devient énervant.
Et puis,
Pascal... C'est un véritable racket qui s'est mis en place.
Pascal, il faut quand même dire une chose, puis après on va accueillir David, c'est que vous faites quand même partie d'un département, la Haute-Marne, qui est aussi un département de Champagne, où les routes ne sont pas si moches que ça.
Non,
elles ne sont pas détruites, c'est fait partie des plus belles routes de France.
On a prévu large.
Avec la Marne. Non, c'est pas ça, c'est qu'à partir d'un moment où le Champagne est une vraie manne économique, et à juste titre, c'est d'ailleurs une des plus belles mannes économiques de France, comme la région Bordeaux, et quand vous vous baladez en Gironde, les routes sont nickel, parce qu'il y a de l'argent. Et en Haute-Marne et en Marne, en Champagne, il y a de l'argent. Donc vous n'êtes pas les pires.
Oui, oui. Voilà. On vient d'avoir aussi un GIP qui vient de se mettre en place.
Un GIP, groupement.
Le groupement d'intérêt public, je crois, dans les forêts de Bourgogne-Haute-Marne, enfin, c'est tout à côté de Langres. Bon, une Langres qui est une magnifique cité. Pardon, oui.
Voilà. Mais voilà, en tout cas, merci d'être venu, bah voilà, Pascal. Tout. Allez, on donne la parole à David parce que l'émission va aller très très vite. Merci Pascal, bon retour en Haute-Marne. Et la prochaine fois, vous nous emmenez quelques jolies bulles. Avec plaisir. Et puis un morceau de ce que tu veux. Bonjour David.
Bonjour.
Merci de votre patience, David.
Ouais, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souci. Moi, je suis complètement contre le 80 km/h parce que déjà, je vais pas parler de chiffres. Parce qu'aujourd'hui, j'espère que les gens ils sont assez éveillés pour comprendre que les chiffres sont souvent truqués, hein, notamment pour preuve le nombre de manifestants dans les rues. Le 80 km/h, ça a généré, beaucoup d'argent parce qu'en fait, il y a eu des limitations de vitesse, donc il y a eu des radars qui se sont mis en place. Notamment le radar, je vous ai expliqué la dernière fois où j'étais passé, je m'étais fait flasher avec un radar. J'étais dans une zone à 80, le radar, il était juste dans la zone à 90. Sauf qu'il flashait la zone à 80. Ça, c'est complètement vicieux. C'est quelque chose de complètement vicieux. Donc, ça génère de l'argent.
Attendez, David, là, Maître Yoska vous répond forcément là sur cette question.
C'est aussi ce qui a particulièrement énervé les Français. Ils ont eu l'impression qu'on a baissé la vitesse et qu'à ces endroits-là, soit on a mis des nouveaux radars automatiques, soit on les a changés pour qu'ils soient plus performants. Mais d'une façon générale, il ne faut pas oublier, cher ami, que vous avez la possibilité de contester les radars automatiques, que c'est le ministère public à faire la démonstration que c'est vous qui conduisiez, et que en demandant vos comparutions devant le tribunal, vous êtes absolument certain de ne pas perdre les points. Parce que les radars automatiques flashent de dos, donc uniquement la plaque d'immatriculation. Et là, à ce moment-là, vous avez accès au droit et vous avez la possibilité de ne pas avoir votre permis de conduire entaché de retrait de points. C'est important.
Autre point que soulève David, Maître Yoska, il nous dit « Bon, le 80, c'était aussi une grosse manne financière. » J'ai envie de dire, c'était peut-être... une des intentions de départ, parce que ça a été budgété.
Mais clairement, on baisse la vitesse, on met des radars automatiques à ces endroits-là, où vous savez tout simplement, Pierre, on retire les radars anciens, on met des radars beaucoup plus performants, et là, ça va devenir des cash machines phénoménaux. Les fameuses tourelles qui pouvaient flasher jusqu'à... Alors, on a tout lu, hein, mais entre 30, 60, 60 véhicules en même temps, sur plusieurs voies, sur plusieurs... Enfin bon, c'était...
Moi, je me mets à la place de celui...
Le casino.
Parce que Jean-Baptiste, j'ai fait la route de nuit là. Donc j'étais à 7 dans l'Hérault à minuit et ce matin je suis là à Paris. Donc j'ai fait la route et j'aime pas l'autoroute. J'aime pas l'autoroute parce qu'elle est payante, parce qu'elle est chère, parce qu'il y a une augmentation des tarifs des péages de 33% au-dessus de l'inflation.
Elle est impersonnelle surtout.
Et puis parce que j'ai pas envie de manger un carré de sandwich avec un truc qui ressemble à...
Bien sûr.
Nous dit que c'est du jambon, mais pour moi j'en suis pas convaincu.
Nos régions du talent.
Exactement.
Donc, surtout ici en plus, au salon.
Donc j'ai fait la route sur la route et là je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce cirque 80, 90, ça n'en finit pas. On sait même plus à quelle vitesse on a le droit de rouler sur les routes. Par contre, les radars, ben, je commence à avoir des tourelles en très bon état, moi. Il y en a partout sur les routes, des radars tourelles.
Ben, elles sont un peu plus difficiles à atteindre directement. Hein. Je répète, bien évidemment, je suis en train de pas vous dire de les attaquer en masse. C'est une infraction pénale et je le dirai jamais. Parce que tout simplement, je le pense, il ne faut pas attaquer les biens de l'État. En revanche, je peux imaginer le courroux de certaines personnes qui ont essayé de vandaliser un certain nombre de radars automatiques parce qu'eux, ils ont perdu leur permis de conduire.
Il faut se mettre à la place de celui
qui sont inquiétés.
Il faut imaginer quand même, Laurence, regarde, il y a un an, deux ans, quand tu roulais à 83 km/h, tu étais un conducteur prudent. Aujourd'hui, tu es considéré comme un chauffard.
David, un mot de la fin pour vous ?
En fait, l'argent, je voulais finir avec ce que j'avais à dire parce que j'ai vraiment pas parlé beaucoup. Avec
je vous
l'argent
écoute.
Qui est généré des radars, il y a une partie qui est reversée pour entretenir les routes, mais vraiment, je pense, une très infime partie. Et l'autre partie, elle est pour quoi ? Elle est pour financer la dette de la France. Une dette qui est complètement fausse.
Oui.
Notamment le 80 km/h, il faut savoir que pour l'utilisation de la voiture, parlons de l'utilisation de la voiture, le moteur. À 80 km/h, on est en sous-régime. Des fois, on est obligé de passer en 5e ou en 6e vitesse.
Absolument vrai.
À 80, on est en sous-régime. Soit on est en sous-régime parce que on roule trop doucement en 6e vitesse. Si on se met en 5e, on se met en sur-régime. D'un côté, on va user de l'huile et de l'autre côté, du gasoil. Donc, pour les gens qui utilisent leur voiture, le 80 km/h, ça génère tout le temps de l'argent, c'est du commerce. Et notamment pour les chauffeurs poids lourds, les camions, quand ils sont à 90 km/h, ils ont le pied dedans, ils roulent tranquillement. À 80, ils sont tout le temps en train de réguler, puis à un moment, ils vont faire un petit excès de vitesse. Donc tout ça, ça génère de l'argent. Et ne parlons même pas des accidents, parce que vous l'avez vu, je pense, tout le monde l'a vu, il n'y a pas eu plus d'accidents que ça en passant, en étant à 90 km/h.
Non, mais parce il devrait
chiffres,
y en avoir
les
moins.
Les chiffres, c'est pareil, c'est tronqué. Il devrait y en avoir moins, exactement,
avoir
moins. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que souvent les accidents c'est dû à des comportements de conduite, des erreurs de conduite. Hein. C'est souvent dû à ça les accidents. Et c'est malheureux. Mais c'est vrai
cas,
que
voilà.
80 km/h, moi je suis complètement contre et j'espère qu'on va tous, dans toute la France, ça va retourner à 90 km/h.
Ça commence, on prend le chemin en tout cas.
Merci. Merci beaucoup David d'être intervenu dans notre rendez-vous ce matin. On continue hein, évidemment, on recommence.
On va parler des perspectives parce que moi j'ai de l'info, j'ai du biscuit.
D'accord, perspectives par rapport au 90.
Sur ce qui va se passer sur le 90, le 80, des dates clés, des choses intéressantes.
Et puis on reviendra aussi sur ce département qui normalement devait revenir aux 90 km/h et qui a refusé comme la Nièvre, enfin en tout cas qui a reculé par rapport à ce principe à cause des coûts que ça lui impose de repasser ses routes à 90 km/h.
Ouais.
C'est la Nièvre, entre autres. On décrypte tout ça dans quelques instants et vous êtes les bienvenus pour réagir. 0826 300 300. Vous avez la parole. C'est Sud Radio en direct du Salon International de l'Agriculture sur le stand de l'Occitanie qui nous accueille.
En direct du Salon de l'Agriculture, stand Région Occitanie.
Sud Radio, ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et on continue de parler hein, effectivement de ce sujet des 90 km/h. 80-90 km/h.
C'est intéressant, on en parle ce qui vient de se passer.
Depuis le début de l'émission. Alors, tu vas nous expliquer ce qui est intéressant, mais juste après, on revient hein, sur cette réalité. Pourquoi la Nièvre, elle qui devait repasser à 90 km/h à cause des coûts coûteux d'aménagement, a refusé ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Viens au micro.
Il m'a dit qu'il ne veut pas trop, il ne veut pas s'exprimer. Mais voilà, j'ai un sapeur-pompier volontaire qui est venu me voir en me disant moi, j'en temps et le 80 km/h, je suis plutôt pour parce que la distance de freinage, la violence de l'impact, le fameux E égale MC2, formule mathématique. Et je lui ai dit, mais attention, c'est une connerie. Mais je peux pas me limiter à ça, donc je vais lui donner l'explication. Il me regarde, je vais te la donner.
Mais
l'explication.
Viens t'asseoir là, c'est pas grave, tu parles pas au micro.
En fait, l'explication est très simple. C'est qu'il est évident que si même on met 10 km/h en limitation de vitesse, il n'y a plus de mort parce que la force de l'impact. Elle n'existe plus parce que la distance de freinage, elle est réduite à néant. Le problème, c'est quand on décide d'appliquer une formule mathématique sur du comportement humain. Parce qu'en fait, placer le 80 km/h sur certaines personnes qui auraient pu avoir un accident, on va décaler effectivement de 10 km/h la violence de l'impact. C'est une certitude. Sauf qu'il y a un deuxième effet qui se coule. C'est qu'à côté, vous avez des personnes qui vont dépasser. Et c'est ce qu'a observé le Danemark, par exemple, qui fait l'inverse et qui passe de 80 à 90. Ils ont observé moins d'accidents, car moins de manœuvres dangereuses de dépassement. Et voilà comment, d'une mesure qui paraît mathématiquement juste, on arrive à un modèle qui est factuellement faux, parce que le comportement humain ne répond pas à des formules mathématiques. Il suffit de regarder dans les cours d'école, ne pas s'accrocher au panneau de basket ou au but de hand. Et qu'est-ce que font tous les gamins ? Eh ben, ils s'accrochent dessus. Donc, il y a le comportement et puis il y a la réalité. Et vouloir mettre systématiquement des formules mathématiques pour expliquer le comportement, ça ne marche pas.
Et ben voilà, en tout cas, explication de texte faite par monsieur Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes, et monsieur Sud Radio, ça roule. Dites, allez, on revient sur cette histoire-là des départements qui ne peuvent pas, en tout cas qui décident de ne pas repasser au 90 à cause des coûts d'aménagement nécessaires. Tu te souviens, j'en avais parlé de ça, que quelques départements n'allaient pas avoir les moyens.
Pour moi, c'est pas de la flûte, c'est du pipeau. Ça veut dire grosso modo que ces départements, ils ont peur de prendre la décision du 90 et ils attendent que les autres le fassent pour voir les résultats arriver. Maître Yoska, à quoi on peut s'attendre dans les mois à venir? Parce que là, ça y est, il y a des départements de test. Ce que ne voulait pas le gouvernement a lieu. Il y a des départements qu'on dit, nous, on repasse tout.
Non, mais 90. Je crois surtout qu'il faut arrêter de se foutre de la tête du monde. Ils ne veulent pas revenir au 90 parce que ça va leur coûter cher. En revanche, ils sont arrivés au 80 et ça leur a rien coûté. Mais si, ça leur a coûté cher. Donc, attendez, vous voyez bien que la démonstration est complètement folle. Moi, je pense intimement que de plus en plus de départements vont revenir au 90. C'est pas possible autrement. Je pense qu'il est absolument nécessaire que tout le monde comprenne qu'on nous a enfumés, que c'était une disposition qui valait strictement rien. Et il faut que les gens, il faut que les départements aient le courage de dire, eh ben, nous on n'écoute pas Paris. On n'écoute pas le Premier ministre, on écoute le bon sens, on écoute nos électeurs, on écoute les gens qui vivent là dans le coin, et on veut absolument revenir à 90. Et puis c'est comme ça. Il faut arrêter avec ce système jacobin qui fait que Paris écrase la province, impose. Je crois que la province a toutes ses lettres de noblesse. Elle a la possibilité, bien évidemment, par tout un tas d'artifices juridiques, d'imposer à Paris. Et il faut qu'elle soit capable de dire, ben non, mais je suis désolé, ça colle pas, je veux pas.
Et puis pendant que nous, on se glorifie de notre super mesure du 80 km/h avec la France, 15e pays européen de la sécurité routière. On a l'Allemagne. Alors, je ne vais pas parler des autoroutes sans limitation de vitesse. Je vais parler de la limitation...
Ah si, on va en parler un peu, ça fait tellement
voilà,
bien.
Un petit peu, voilà. Il y a aussi ce qui se passe sur le réseau secondaire allemand.
Oui.
La limitation, c'est 100 km/h. Et ils observent 25% d'accidents en moins. Alors on me dit, oui, c'est des Allemands. Ben oui, mais enfin bon, excusez-moi. Un type à 100 sur le réseau secondaire, qu'il soit français ou allemand, c'est un type à 100 km/h, quoi qu'il arrive. Donc si... Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a une limitation, c'est une vitesse maximale autorisée. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'y être. Ça veut dire que les gens sont suffisamment capables quand même, dans leur grande majorité et dans l'écrasante majorité, d'adapter leur comportement par rapport à la route. Et l'Angleterre, qui est le numéro 1 de la sécurité routière, ben, non seulement c'est 97 km/h là-bas, la loi des miles, mais en plus de ça, pendant très longtemps, il n'y avait qu'une seule règle. Il y avait une vitesse sur autoroute, une vitesse réseau secondaire, une vitesse ville. Et on n'abaissait pas. Et chacun gérait son comportement. Angleterre, numéro 1 de la sécurité routière européen.
Vous voyez, au lieu de se tracasser sur le 80-90 km/h et tout, je pense que le gouvernement gagnerait à dire, écoutez, notre problème numéro 1, c'est pas la vitesse. Notre problème numéro 1, c'est le 1 million de personnes qui conduisent sans permis de conduire. Parce que c'est 1 million de personnes qui conduisent sans assurance. Et là, ça crée des hémorragies terribles. Il y a des gens qui perdent leur maison, il y a des gens qui se retrouvent à la rue. Là, il faut les accompagner, ces gens-là. Et ça ne coûte pas grand-chose de les accompagner. Il suffirait simplement de dire, écoutez, voilà les gens qui ont perdu leur permis de conduire. Il suffit simplement de les accompagner, de les renvoyer dans une auto-école, éventuellement de faire un système de coupons, je ne sais pas. L'État a toujours de très, très bonnes idées. Elle a été capable de nous démontrer avec ses 80 km/h, mais qu'elle soit capable de démontrer qu'elle est capable de remettre les gens, de les renvoyer aux auto-écoles, de les renvoyer avec un permis de conduire, de les faire rentrer dans le cadre de la légalité. Là, on est en train de se battre pour dire on est dans un système qui est complètement illégal, alors qu'il faudrait justement au contraire que les gens, les Français, reviennent dans un système strictement légal.
Est-ce qu'en tant qu'avocat de droit routier, Maître Yoska, vous avez reçu, tout d'abord, avant les dégradations des radars, une recrudescence de perte de points suite à l'abaissement de la limitation de vitesse sur le réseau secondaire ?
Ah mais très clairement, et puis les gens vous le disent, les gens vous disent, bon, on a un vrai problème, on perd des points, on perd des permis de conduire, on se retrouve avec des permis de conduire annulés, et c'est uniquement la province, et c'est toujours pas Paris, et c'est toujours nous qui trinquons, et bien évidemment. Et puis, les gens en province qui n'ont pas de leur permis de conduire, c'est pas des palérisiens qui peuvent prendre le métro, c'est des gens qui se retrouvent dans des fermes, qui se retrouvent dans des exploitations agricoles, on est au salon de l'agriculture aujourd'hui, à 40-50 km du premier abribus. Et là, ces personnes-là, comment on va faire ? Comment on va dire à un agriculteur, écoutez, vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher vos semences ? Comment on va dire éventuellement à un plombier, vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher vos tuyaux ou vos sacs de ciment ? Et puis, en tout état de cause, vous aurez toujours la possibilité de le prendre par bus. Il faut arrêter de se moquer.
Il faut savoir qu'on a des départements dans lesquels il n'y a pas de réseau autoroutier.
Mais c'est des enclaves.
Point barre. Donc ces gens-là, vous leur dites, vous avez acheté une voiture pour rouler à 80 max. Moi, j'ai envie de dire, à ce tarif-là, autant s'acheter la voiture. Ah oui, là, la voiture sans permis, on roule à 50, on est tranquille.
Hein. J'ai une question à poser, messieurs. Est-ce que aujourd'hui, le français, ça le concerne encore, cette histoire de 80 et 90 ? Je m'explique, puisqu'on s'habitue à tout. Est-ce qu'on entend encore des gens qui râlent sur le 80 km/h ? Est-ce que tout le monde n'a pas pris un petit peu ça ?
Faites un micro-trottoir, Laurence, vous allez voir.
J'ai entendu.
Vous allez voir comment ça gronde.
Moi, vous savez. Pendant les vacances à 7, j'étais avec ma compagne et on écoutait à la table d'à côté, ça parlait du 80. Donc tout est dit. Dès que tu vas dans un petit bar, dans un petit bistrot, dès que tu vas dans la France qui n'est pas Paris, eh bien là, ça devient un sujet parce que. Qu'est-ce qu'on fait tous les matins ?
Exactement.
9 personnes sur 10 qui montent dans leur bagnole.
C'est une préoccupation énorme des Français. Ça, le prix du gasoil, le prix de l'essence, le travail qu'on n'arrive plus à faire, on ne peut plus se déplacer, ce que ça coûte, les charges de travail, éventuellement les licenciements qui s'enduisent, c'est tout ça qui est important.
Est-ce que vous pensez, Pierre et Maître Yoska,
qu'effectivement,
je pense, oui, c'est le contraire. Je pense donc je suis, et nous les femmes, c'est je pense donc je suis. Et donc, écoute, on a le droit de faire un peu de blague à deux balles.
C'est une blague à l'amour, ça.
Oui. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on va revenir aux 90 km/h ?
Oui.
Et il y a un timing pour ça.
On y arrive.
En fait, c'était il y a 2 ans. Je me souviens d'une magnifique interview du président de la République par Jean-Pierre Pernaut. C'était dans une petite école de l'Orne à Berduy. Et dans cette petite école, les mots du président de la République ont été « On va faire une expérimentation pendant 2 ans. »
Si ça marche pas. Si on se trompe, et on reviendra en arrière.
Alors on y est là aux 2 ans.
Et ben voilà.
Et ça marche pas.
Et ça marche pas. Alors tu sais, Edouard, maintenant tu reviens en arrière. Nous. Tu l'as promis.
Juste avant les municipales, messieurs. Vous pensez que juste avant les municipales, ils vont faire un changement ?
Non. Je pense qu'Edouard Philippe, non. Il va falloir qu'il parte au Havre d'abord. Ça me paraît évident. Il va avoir du mal. C'est sa mesure. Il s'est accroché à cette mesure. Il essaye de la vendre. Tite même. Et quand j'entends au téléphone qu'on nous appelle à Sud Radio pour nous dire « Eh bien, on a trafiqué les chiffres », malheureusement, je peux pas dire non. C'est vrai, on a trafiqué les chiffres. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis 2013, la France ne communique plus normalement sur les chiffres de mortalité sur la métropole. On communique sur France plus territoires et départements d'outre-mer. Bizarrement, là, cette année, on a communiqué que France métropole. Pourquoi ? Parce que si on ajoute les dom-toms, on était au-dessus et on était en augmentation de la mortalité. Donc oui, on nous joue du pipeau, on nous joue de la flûte. La réalité, le 80, il ne fonctionne pas, c'est tout.
Vous croyez que c'est parce que le Premier ministre va partir qu'éventuellement il y aura un grand retour au 80 ?
On a quand même un délégué interministériel à la sécurité routière qui vient de partir. On a un Premier ministre qui est candidat au Havre.
On sait qui va être le suivant après M. Barbe ?
Oui, Mme Perrichon.
Ça c'est de l'humour et c'est du privé de joke, faut expliquer à nos amis auditeurs parce que sinon ils vont pas comprendre.
Alors Chantal Perrichon, elle est présidente d'une association qui s'appelle la Ligue contre la violence routière. Elle a longtemps milité pour le 110 sur autoroute, 70 sur le réseau secondaire et 30 en ville. Voilà, si ça vous intéresse, voilà.
Chantal, on t'embrasse.
Voilà, ça c'est fait. On a compris que vous étiez très très amis. On va rester là
on
sur
se respecte,
ce sujet.
On se respecte
mais on peut ne pas être d'accord et se respecter.
On n'est pas d'accord.
On reviendra sur le 80 à 90 km/h et évidemment, puisque ça fait partie des sujets qui a pris la chronique depuis maintenant pratiquement 2 ans. Mais dans quelques instants, on va parler de mobilité électrique, entre autres, avec Jean-Patrick Tesser, président d'Electric Road. Ce sera juste après notre rendez-vous moto avec Jean-Michel Lenné que nous retrouvons. À tout de suite, vous êtes bien sur Sud Radio le week-end aussi. On est heureux d'être en votre compagnie en direct du Salon international de l'agriculture, accueilli sur le stand de l'Occitanie.
En direct du Salon de l'agriculture.
Sud Radio.
Sud Radio.
Ça roule.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et on continue bien sûr puisque nous sommes en direct du Salon international de l'agriculture situé porte de Versailles, mais également sur le stand de l'Occitanie qui nous accueille maintenant régulièrement depuis quelques années. On les remercie chaleureusement. Dans quelques minutes, on va parler de la nouvelle Honda Africa Twin 1100 avec notre spécialiste moto Jean-Michel Lenné. Mais pour l'heure, je vous propose de nous arrêter sur ce qui va se passer, Pierre, du 2 au 4 avril 2020 à Bordeaux, l'Electric Road 2020. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Patrick Tesser. Bonjour Monsieur Tesser.
Bonjour à vous.
Vous êtes le président d'Electric Road. Alors, déjà, avant de parler de ce qui va se passer le samedi 4, particulièrement, un mot sur cette Electric Road 2020.
Le congrès existe depuis 5 ans. C'est la 6e édition qui s'installe à Bordeaux avec des moyens très importants et avec un programme étincelant, je crois. J'en ai la fierté. Ouais. Et on va survoler et approfondir à 360 degrés toutes les thématiques autour de cette mutation qui est un challenge unique du siècle, puisqu'il va falloir...
De la mobilité électrique, ouais.
Exactement.
Alors, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat, parce que sur Ça Roule, nous, on parle vrai. La voiture électrique, pour l'instant, semble ne pas trouver son public. Vous pensez que c'est qu'une histoire de temps? Même si, avec vous, on ne parle pas que de voiture électrique, hein, mais on parle également de tout ce qui est intervenant, acteurs et experts dans la mobilité électrique.
Et on parle aussi de transport lourd, de personnes, de fret, de beaucoup de choses, et y compris jusqu'aux deux roues. Mais là, ce qui vous concerne plus particulièrement, vous, c'est peut-être le milieu rural, on va en parler. Vous avez tort de dire que ça n'a pas l'air de décoller, puisque ça représente plus de 8,19% des immatriculations de toute voiture le mois dernier. Donc c'est quand
alors,
même
je n'ai pas tout à fait tort. Alors, attendez, on n'a pas tout à fait tort, parce qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, et on sait très bien, Pierre, les 8,9%.
Voilà, alors il faut revenir un petit peu, parce qu'on ne peut pas se caler que sur le mois de janvier, vous le savez très bien. Il y a les constructeurs qui avaient mis des voitures au frais, hein, au frigo, notamment sur le mois de décembre, pour faire éviter aux acquéreurs de la nouvelle année le malus. D'ailleurs,
je suis quand même... Pour les voitures électriques, 8,9% d'électriques en janvier, Pierre, c'est surtout de ça.
Mais c'est vrai, non, mais voilà, la part des ventes, elle est plus forte, puisqu'en fait, on a tout un tas de voitures qui ont été immatriculées avant, vendues neuves avant, en fait, grosso modo. Elles ont été achetées par le constructeur lui-même sur les mois de décembre 2019. Non.
Et on parle d'électrique.
Oui, mais justement, d'accord. 8,9% des parts de marché sur janvier. Mais comme on a toute une part, c'est un pourcentage, comme on a toute une part du parc qui a été acheté avant, ça donne plus de parts électriques. Cependant, il y a une chose qui est indéniable.
Contre, attention, hein, monsieur Tesser, voilà. On n'est pas contre, hein, c'est juste qu'on essaye de mettre les choses.
Je vous écoute avec attention.
Cependant, il y a une chose qui est indéniable, c'est que ça progresse.
L'augmentation de la part des ventes, et ça n'arrêtera pas, pour mille raisons.
Est-ce que vous êtes inquiet quand même? Moi, il y a un truc qui m'inquiète, hein, pour la mobilité électrique, parce que moi, je m'en fiche. Je suis content si les gens peuvent choisir la motorisation qu'ils aiment. J'en suis ravi. Mais moi, il y a une chose qui m'inquiète, c'est les rumeurs, et voire même plus que les rumeurs, les quasi-certitudes de disparition progressive du bonus à l'achat du véhicule électrique.
Oui, mais il faudra qu'on y arrive un jour. Ça sera ça. Vous savez, la batterie, qui est l'élément principal de la voiture électrique, la moitié du prix de la voiture a chuté. Le prix de la batterie a chuté de 87% en 10 ans. C'est absolument spectaculaire. Oui. Et donc, on peut espérer, et des marques comme Skoda vont le prouver, puisque Skoda a actuellement la voiture la moins chère du marché, à 15 000 euros et à un petit peu plus de 15 000 euros. Avec effectivement la prime d'État, et vous avez Renault qui sort une Dacia électrique qui va être à peu près dans ces prix-là. Donc on commence à aborder maintenant des prix relativement accessibles pour tout le monde.
Et Monsieur Tesser, Jean-Patrick
Tesser,
l'autonomie, c'est aussi le point sur lequel il faut rassurer les Français.
On va en parler, je vais vous expliquer. Milieu rural, c'est parce que c'est ça le sujet, je crois. L'autonomie n'est pas un problème.
Monsieur Tesser, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce Electric Road, parce que c'est de ça dont il est question également ce matin. Parlez-nous un petit peu de cet événement, parce que est-ce que c'est un événement qui va vraiment permettre au grand public de retomber amoureux de la mobilité électrique? On parle de mobilité, pas simplement de voiture.
Oui, tout à fait. On parle même de mutation de la propulsion électrique, sachant que nous ne sommes pas des ayatollahs de la voiture électrique. Nous sommes convaincus que la propulsion électrique va évoluer tranquillement sur le marché. Je ne suis pas convaincu qu'on supprimera la voiture thermique comme les ordres nous en sont donnés, et vous le savez, je pense qu'il y a des énergies qui sont tout à fait honorables, comme le gaz naturel, qui doit continuer à faire la transition. Il y a également des améliorations spectaculaires du diesel, et je ne suis pas un ennemi du diesel. Voilà, je crois que ça, c'est très important de le dire. Simplement,
moi je participe
depuis 15 ans. C'est le discours de Carlos Tavares que j'apprécie énormément, que j'ai invité à venir à notre congrès de Bordeaux, que je trouve un discours tout à fait raisonnable, équilibré, en disant oui, nous sommes d'accord pour développer une transition technologique, mais on ne peut pas tout nous demander à nous les industriels, c'est-à-dire de jeter à la poubelle toutes nos chaînes d'assemblage thermique. Voilà. Donc
alors
vous voyez
que
je suis quelqu'un de raisonnable.
Ah mais non, puis de toute façon, nous, on n'est pas contre la voiture électrique, c'est juste qu'on se dit que ce n'est pas encore gagné aujourd'hui. Mais là, on parle de mobilité, et alors c'est quelque chose dont on a souvent parlé, Pierre, dans Ça roule sur Sud Radio, c'est que vous allez accueillir le samedi 4, au pavillon français Rétrofit, la façon dont on peut la conversion des voitures thermiques. Et on en a souvent parlé dans Ça roule.
Ah, vous me coupez l'herbe sous le pied, parce que j'avais l'intention, évidemment, d'arriver à ça. Puisque pour nous, c'est un énorme événement.
Je vais pas vous couper l'herbe sous le pied.
Au contraire, on vous passe le plat, là.
Il nous reste deux minutes.
Allez-y. Vous m'avez branché sur un sujet hyper intéressant, qui est la mobilité électrique.
Pour un gars qui est dans l'électrique, on vous branche.
J'aurais bien voulu vous en parler, parce que c'est hyper intéressant. Et je vais aborder le rétrofit. La mobilité
Monsieur Tesser, malheureusement, en radio, il va falloir que vous veniez passer une demi-heure avec nous sur le sujet, parce que là, il nous reste deux minutes.
Avec plaisir.
Donc, on va prendre un autre rendez-vous,
la mobilité électrique n'a jamais été l'apanage des villes. Jamais. Et je le dis depuis 15 ans. Je suis embarqué depuis 15 ans là-dedans. Les zones rurales peuvent, bien sûr, participer à cette transition beaucoup plus facilement que les autres. Il y a 20 millions de maisons individuelles en province qui permettent de charger sa voiture. 90% de la charge doit être faite à domicile. Elle est faite à domicile. Il n'y a aucune raison de dire que la voiture électrique est une voiture urbaine. Au contraire, c'est une voiture qui facilite les transports et surtout, sur la question budgétaire, c'est évidemment beaucoup plus profitable. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et le rétrofit va participer à ça, puisque le rétrofit, c'est l'autorisation qui va être délivrée le jour du congrès, d'ailleurs, je pense, à peu près, la loi va passer à peu près à la même période, qui va autoriser quiconque, un particulier et surtout tous les petits garages, à transformer une voiture thermique à laquelle on tient en voiture électrique. C'est une vraie révolution, totalement vertueuse de tous les côtés, sur le plan économique, sur le plan de l'emploi et sur le plan écologique. Voilà, donc ça n'est que vertueux.
Et en tout cas, on donne rendez-vous à tout le monde, hein, puisque le salon, lui, va avoir l'Electric Road, hein, tel que vous l'appelez, c'est au mois d'avril.
Il s'appelle Electric Road, oui, et on sera les premiers à parler de rétrofit. Du 2 au 4 avril, au Parc des Expositions de Bordeaux. On souhaite avoir le maximum de gens, parce qu'on a énormément de choses à leur faire découvrir. Il y a une zone pour les professionnels, donc qui est traditionnellement notre force, puisque on a 13 plénières expertes, et 13 ateliers experts, donc ça pour les professionnels c'est de toute façon gagné, mais cette année on ouvre au public et le public va pouvoir rencontrer les professionnels sur des rings qui sont installés au milieu de la zone d'exposition, poser des questions, se renseigner, et vous voyez qu'on est capable de mélanger la technologie, l'expertise et la pédagogie, et c'est ça notre force.
Eh bien voilà, on vous donne donc à tout le monde rendez-vous, hein, sur l'Electric Road. Ce sera du 2 au 4 avril 2020. Ça se passe au Parc des Expositions de Bordeaux. Merci beaucoup, Monsieur Tesser, président d'Electric Road, d'être intervenu
merci,
dans Ça roule sur Sud Radio.
Temps, j'espère vous revoir. Merci beaucoup.
Mais alors attendez, on va faire clair, on va faire net. Vous montez à Paris, on vous donne une demi-heure d'émission pour parler d'Electric Road avant le mois d'avril.
Enfin, on parlera
avec
aussi.
Plaisir, hein. Je suis parisien, donc vous ne tracassez pas, c'est quand vous voulez.
Eh bien, on va donc se caler pour parler en détail d'Electric Road.
C'est une proposition, Lolo. Hein.
Avec grand plaisir, en tout
on
cas.
Vous, on vous passe un bon week-end.
Moi aussi,
bien sûr.
Bon courage.
Merci, merci à vous. Allez, tout de suite, on vous l'a promis, puisque c'est un rendez-vous régulier que l'on a maintenant sur Ça roule. On va parler moto avec Jean-Michel Lenné.
Sud Radio Moto, Jean-Michel Lenné.
Bonjour Jean-Michel, il paraît qu'on parle de Honda aujourd'hui.
Merci Laurence, nous partons cette semaine au guidon de la nouvelle Africa Twin 1100 dans sa version Adventure Sport. Sachez que cette moto est proposée en deux versions, la version standard et notre version d'essai Adventure Sport, avec son gros réservoir de 25 litres et son équipement enrichi, mais aussi avec une boîte automatique et des suspensions à réglages électroniques en option. Ce qui nous fait au total 6 combinaisons possibles. Alors, cette Honda fait partie de ces motos qui se sont fait un nom sur les pistes africaines dans les années 80. Après de très longues années d'absence au catalogue, cette Africa Twin 1100 vient remplacer la précédente 1000 lancée en 2016. Bien sûr, elle a un plus gros moteur, mais le principal n'est pas là du tout. Deux choses sont importantes pour cette nouveauté 2020, l'ergonomie qui a nettement été retravaillée et l'électronique qui a fait un énorme bond en avant. Allez, on prend le guidon de la nouvelle Africa Twin 1100 Adventure Sport, c'est parti. Ce son, vous le reconnaissez, c'est celui du bicylindre de l'Africa Twin. Il n'a pas beaucoup changé cette année. Il passe à 1100 cm3 avec un petit peu plus de puissance et de couple. Il est désormais Euro 5, mais rassurez-vous, il est toujours aussi vif.
Mais alors Jean-Michel, qu'est-ce qui change alors pour l'ergonomie ?
Pas mal de choses. Ce qu'on ne voit pas, c'est que la selle est plus étroite et surtout moins haute que la précédente génération et que le réservoir de presque 25 litres est redessiné. Honda a écouté ses clients, l'Adventure Sport dispose maintenant d'une selle à la même hauteur que l'Africa Twin standard. Vous n'avez plus besoin de mesurer plus d'1m80 pour poser les deux pieds au sol. Et puis, pour l'agrément, notre Adventure Sport est équipé d'une boîte automatique à double embrayage. Je sais qu'il y a des détracteurs de cette boîte automatique, pourtant très appréciée dans nos autos. Sachez qu'elle représente tout de même 43% des ventes sur cette moto qui est taillée pour l'aventure. Cette boîte automatique ajoute 10 kg à la moto et 1000 euros la facture, mais sur la route, son confort est exceptionnel. D'autant que l'électronique tient maintenant compte de l'angle de la moto en virage pour passer les rapports. C'est nouveau et cette douceur sera certainement très appréciée par votre passager préféré. Allez, on s'arrête. Et on s'attarde un petit peu sur l'électronique à bord.
Ah ben justement, c'est une très très grosse nouveauté l'électronique en 2020.
Ce n'est pas une grosse mais une énorme nouveauté sur l'Africa Twin cette année. Il y a une centrale inertielle qui analyse tout. Si on accélère, si on freine, tourne, glisse, elle sait tout et adapte à la situation le moteur, le contrôle de traction, le freinage, la boîte de vitesse et même les suspensions électroniques en option. Et pour régler tout ça, comment fait-on ? Eh bien, au choix, on a les boutons au guidon de façon classique ou le tableau de bord TFT en couleur qui est tactile. Ça paraît très compliqué, mais en réalité, c'est assez facile si on passe par cet écran qu'on peut utiliser avec des gants. Vous allez me dire qu'elle est géniale cette Honda, mais on peut tout de même regretter quelques petites choses. D'abord, le pare-brise et les protège-mains de l'Africa Twin standard qui ont rétréci. Le porte-bagages et les poignées passagers, ainsi que les supports de valise qui ont disparu. Tout ceci s'est réservé à l'Adventure Sport qui monte en gamme. Ces deux machines sont maintenant très différentes et l'écart de prix est important.
Ah bah tiens, parlons prix. Combien ça coûte une Africa Twin 1100 avec ses 6 versions ?
Eh bien, l'Africa Twin débute à 14 499 euros pour la version standard. Ajoutez 1000 euros pour la boîte de vitesse automatique DCT que je vous recommande au moins d'essayer, c'est très agréable. Mon Adventure Sport avec sa boîte DCT justement et ses suspensions électroniques s'échange contre 19 299 euros, soit un supplément de 4 800 euros. C'est la plus chère des Africa Twin. Voilà, vous savez tout sur cette nouvelle Africa Twin 1100. Il me reste à vous souhaiter de jolis voyages et à bientôt.
Merci beaucoup Jean-Michel, merci pour cette belle balade en Africa Twin 1100 dans notre rendez-vous. Ça roule à suivre juste après le rappel de l'actualité. On va parler du bioéthanol et on va parler surtout du syndicat national des producteurs d'alcool agricole avec le secrétaire général du SNPAA, Sylvain Desmours, alors que vous ne le voyez pas actuellement. Mais on a notre ami Pierre Chasseret qui est en train de me faire des petites blagounettes
avec le micro, ouais.
En direct sur le Salon international de l'agriculture où ça roule, pose ses micros et où Sud Radio va poser ses micros durant toute cette semaine. En direct du Salon de l'agriculture, je vous l'ai dit, mais du stand de l'Occitanie qui nous accueille régulièrement chaque année.
En direct du Salon de l'agriculture, stand Région Occitanie. Sud Radio, ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h30.
Et on va en parler de l'agriculture dans sa roule. Et oui, mon Pierre, on va en parler parce que dans quelques secondes, il est déjà prêt avec nous. On accueille le président, le secrétaire, pardon, général Sylvain Desmours du syndicat national des producteurs d'alcool agricole parce qu'on veut parler du bioéthanol qui est en partie fabriqué en France.
Oui, ça me plaît le bioéthanol parce qu'à l'heure actuelle, alors vous avez le choix. Bien sûr, vous pouvez acheter un véhicule électrique. La bagatelle, faut mettre un ticket minimum de 20 000 euros pour avoir 200 km d'autonomie. C'est comme ça, hein, c'est pas une critique, c'est comme ça. Ensuite, vous avez le diesel. Mais le diesel, on vous dit que en ville, vous avez plus le droit de rouler avec. Bon, moi, je suis contre le fait d'interdire de rouler, mais c'est un fait, c'est comme ça. Et vous avez quoi? Vous avez à côté des prix des carburants qui sont explosifs, que ça soit sur l'essence, le diesel. C'est devenu inabordable, on est à plus d'1,50€ le litre. C'est l'or noir, voilà, comme disait Tintin, c'est l'or noir. Et à côté, vous avez une solution qui vous permet de rouler pour tous ceux qui sont équipés d'un véhicule à essence qui roule au sans-plomb. Vous pouvez quasiment sur tous les véhicules adapter un petit boîtier et rouler à l'éthanol.
Allez.
Et payer votre litre de carburant, 68 centimes le litre. Elle est pas belle la vie?
Eh ben on en parle en détail dans Ça roule jusqu'à midi et demi.
C'est français.
Et si vous aussi vous êtes pour le bioéthanol et l'agriculture française, vous venez nous rejoindre au 0826 300 300. Sylvain Demour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes du sucre.
Vous êtes le secrétaire général du syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Alors, Quesaco, déjà explication de ce fameux syndicat.
Eh bien, nous sommes sur le salon de l'agriculture précisément parce que cet alcool est agricole, c'est-à-dire d'origine agricole, et qu'on le produit à partir des betteraves à sucre, du blé fourrager et du maïs qu'on produit en France.
Contrairement à la canne à sucre qui fait du rhum, et ça, on ne le produit pas en France.
Si, en Guadeloupe et en Martinique.
Oui, c'est ça, et c'est aussi la France.
Et c'est aussi la France, et en Réunion également. Revenons tout de suite là, ce fameux bioéthanol. Déjà, on va commencer par expliquer les choses. C'est quoi?
C'est un alcool, tout simplement. Le bioéthanol, c'est un alcool qu'on produit de la même façon qu'on produit de l'alcool dans le vin à partir du jus de raisin.
Ça, on y connaît plus.
On s'y connaît.
Non, moi, je roule à l'éthanol, Lolo.
Ah
ouais. Si, c'est vrai.
On fait fermenter du sucre de betterave ou de l'amidon de céréales et on obtient de l'alcool. Et cet alcool, c'est exactement le même. Alors, on peut en faire plein de choses. On peut en faire effectivement quelques boissons alcoolisées. On peut en faire de l'antigel, on peut en faire tout un tas d'autres choses. Et surtout du biocarburant. Et dans le biocarburant, c'est ce qui se développe le plus vite.
Il y a combien d'agriculteurs concernés par cette filière agricole, pour le coup, puisqu'on est en direct du Salon international de l'agriculture?
On atteint 50 000 agriculteurs qui sont concernés par cette filière. Alors, ils ne produisent pas que pour le biocarburant, évidemment, ils font beaucoup d'alimentation, mais ils sont impliqués en tant que producteurs de céréales ou en tant que producteurs de betteraves. Et dans la betterave, c'est 20 000 agriculteurs qui sont impliqués dans la filière betterave, qui est présente d'ailleurs sur ce salon.
Et alors, moi, la petite question, quand on est face à vos détracteurs, il y en a de moins en moins. Vous commencez à un petit peu convaincre tout le monde sur le sujet, mais on a encore quelques détracteurs qui vous disent: oui, mais c'est la porte ouverte à l'agriculture intensive. Oui, mais si on fait tous de la betterave sucrière, alors il n'y a plus d'agriculture en France. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui vous disent ça?
Tout est une question de mesure. Tout est une question de mesure. On doit décarboner les transports. Ça, c'est un challenge. C'est un vrai challenge pour le climat. On le sait, sans la décarbonation des transports, la planète ira de plus en plus mal. Donc il faut faire quelque chose. Il faut baisser la consommation des véhicules, il faut travailler sur un certain nombre de solutions, c'est un bouquet de solutions, c'est pas que l'électrique, c'est également les biocarburants, et nous on contribue à ça. Alors on le fait avec mesure, aujourd'hui c'est moins de 1% des terres qui sont consacrées au bioéthanol français, avec ça on répond à la totalité de la demande française et un peu plus, donc voilà, on a encore de la marge.
On a des pays, je pense au Brésil notamment, où rouler à l'éthanol, c'est la base. D'ailleurs, ça doit être la majorité du carburant vendu au Brésil, je pense.
C'est tout à fait la majorité. Là-bas, toutes les voitures sont flexioul d'origine.
Alors flexioul, on explique, hein, ça veut dire?
Ça veut dire qu'on peut rouler avec un carburant très riche en éthanol. Au Brésil, ils mettent 100%. Chez nous, on met 85% en été et 65% en hiver. C'est plus facile pour démarrer. Voilà. Au Brésil, l'essence, c'est 27% de façon standard d'éthanol dans l'essence. En France, c'est plutôt 10% avec le 10.
Oui, c'est un point à souligner. Ça veut dire pour tous ceux qui se disent « Oh, mais moi, je veux pas rouler avec ce truc-là, l'éthanol. Là. Moi, mon garagiste, il m'a dit, faut pas que je roule avec ça. » On va quand même vous rappeler, hein, dans le sans-plomb 95 E10, vous avez de l'éthanol à hauteur
de 10%.
Vous avez
10% d'éthanol. Et d'ailleurs, la grande nouvelle, c'est qu'on passe la barre des 50%. 50% du marché des essences, c'est de le 10. Et ça pose aucun problème,
c'est
évidemment.
C'est le carburant le plus vendu.
C'est le carburant largement.
Moi, je roule
le plus
à ça d'ailleurs. Mais on a plein de questions à poser aussi sur l'impact polluant, parce qu'on parle toujours des voitures thermiques qui polluent. Est-ce que c'est moins polluant? Et auquel cas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en France, on ne développe pas plus le bioéthanol? Pourquoi le gouvernement, l'État ou les grandes structures ne poussent pas, ne développent pas plus le bioéthanol à plus? Tu vois ce que je veux dire?
Ça commence en région et ça commence. Si l'État, on va dire, vous fait bénéficier d'une taxation plus modérée que sur les autres carburants.
Oui. Le bioéthanol, c'est effectivement moins polluant. C'est 90% de particules en moins, c'est 35% d'oxyde d'azote en moins. Donc c'est un carburant qui est propre pour la qualité de l'air. Oui, il est soutenu. Il est soutenu parce que la fiscalité est faible sur le superéthanol E85 et elle est faible parce que ce carburant est plus écologique. Et c'est comme ça que le carburant est moins cher. Et ça, c'est durable.
Et puis on a les régions qui, pour certaines régions, je pense à la région Hauts-de-France.
Région Hauts-de-France, PACA. La région Grand Est, la région PACA donne des aides pour convertir les véhicules. Quand on a un véhicule essence et qu'on veut rouler à l'E85, il est important d'installer dessus un boîtier homologué par l'État. Et à ce moment-là, les régions peuvent vous aider.
Alors moi, je t'en parle souvent de cette histoire, puis on va accueillir Patrice qui nous appelle. Moi, mon tonton, il a plusieurs voitures, il est passionné de bagnole, on a une famille de voitures. Et il a une petite 104 qui doit avoir 20 ans, pas loin, qui est merveilleusement belle, qui fonctionne super belle, il l'entretient nickel. Et il roule à l'éthanol, il n'a pas mis de...
Il n'a pas mis de kit.
Ah non, il n'a pas mis de kit et ça roule très bien. Alors attention, ce que je dis là, ne faites pas ça vous-même.
Cependant, il fait peut-être peu de kilomètres.
Il en fait très peu. C'est la petite voiture du quartier quand il va chercher son pain. Voilà.
Nous, ce qu'on recommande vraiment, c'est la pose d'un boîtier homologué par l'État. C'est ça qui nous donne toute la sécurité.
Mais comment on explique que ça puisse marcher ? Alors, ne le faites pas sans, mais comment on explique que ça puisse marcher, que ça peut marcher comme ça sur des petites vieilles voitures ?
Un moteur à essence, c'est un moteur qui fonctionne avec un carburant de type essence. Et l'éthanol est un carburant de type essence. Simplement, ce que vous n'allez pas voir, c'est qu'elle va fonctionner peut-être un peu moins bien. Parce qu'il n'y a pas le boîtier qui vous permet d'adapter vraiment le fonctionnement du moteur en fonction du contenu en éthanol. Et c'est ça qu'apporte le boîtier, c'est que vous consommez exactement ce qu'il faut, vous ne sollicitez pas trop votre moteur, vous gagnez même un peu en performance quand vous avez mis un boîtier.
Une meilleure consommation, une optimisation un peu. Ce boîtier, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est un calculateur, ni plus ni moins. Ça veut dire qu'il vient supplanter le calculateur de votre auto pour mettre un nouveau calculateur qui va injecter davantage de carburant éthanol parce que le moteur a besoin d'un petit peu plus d'éthanol. Cependant, l'indice octane de l'éthanol est meilleur, ça veut dire qu'il y a une meilleure combustion. Donc, ça veut dire que ta voiture, Lolo, si tu passes à l'éthanol, eh bien, tu vas gagner un petit peu de puissance. Donc, ce n'est pas négligeable.
On accueille tout de suite Patrice au 0826-300-300. Bonjour, Patrice.
Bonjour.
Vous habitez à Paris, vous, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et alors, le bioéthanol, pour vous, c'est...
Il n'a pas trouvé place de parking, il n'a pas pu venir.
Un carburant d'avenir, hein.
D'avenir, je ne sais pas. Mais avant je voulais citer une phrase de Benito Mussolini. Il avait dit « Tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État ». Et c'est exactement ce que nous vivons, c'est-à-dire que là, il y a un tout petit sursis. Parce que pour des raisons faussement écologiques, d'ailleurs, le bioéthanol n'est pas encore taxé. Alors chacun va y aller de son analyse, etc. Mais il se trouve qu'au Brésil, manifestement, c'est 100% des véhicules qui roulent avec. Aujourd'hui, ça reste une aubaine pour les Français. Alors ça n'a strictement rien à voir, je pense, avec l'écologie. Mais c'est surtout à voir avec le porte-monnaie, avec le pouvoir d'achat des gens. Mais il est évident qu'à un moment donné, l'État va rehausser les taxes là-dessus. Parce que personne ne contrôle l'action de l'État, véritablement.
Patrice, ça y est, j'ai compris ce que vous voulez me dire. Alors, on n'a pas les mêmes références littéraires tous les deux, manifestement. Cependant, la question que vous posez à Sylvain Desmours du syndicat, c'est est-ce que le régime fiscal que l'État octroie à la filière éthanol va rester le même, ou est-ce qu'on va attendre que tous les Français passent à l'éthanol et ensuite, bling ?
Bien sûr, c'est ce qui va se passer, je pense.
Alors, pour les carburants, l'État, de toute façon, il a un sujet qui est qu'il promeut l'électrique, donc ça veut dire moins de carburant liquide, donc ça veut dire moins de taxes. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il se pose la question de la taxation, y compris de l'électrique. Maintenant, ce qui concerne le superéthanol, c'est vraiment le carburant le plus écologique. Et l'État souhaite développer les carburants écologiques parce qu'il est engagé dans la décarbonation, il est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il a des engagements au niveau européen. Et l'éthanol est un moyen d'arriver à tenir ses engagements. Donc, casser ce moyen, ça serait contre-productif. Donc nous, on pense qu'il va continuer à soutenir par une taxation au niveau actuel.
Et puis on en continuera d'en parler. Merci beaucoup Patrice d'être intervenu ce matin sur Sud Radio et puis nous avoir donné votre avis et posé la bonne question. Aussi, une autre question, c'est est-ce que demain notre pays peut passer entièrement au bioéthanol et quid de l'agriculture, quid des surfaces arables pour l'alcool, c'est-à-dire la betterave entre autres, mais aussi le blé. On en parle avec vous, notre invité Sylvain Desmours, secrétaire général du syndicat national des producteurs d'alcool. agricole.
Tu te dis, si demain on met des betteraves en champagne, c'est la fin du monde, c'est ça
mais
ton truc.
Mais pas qu'en champagne, mais en Côte-du-Rhône, à Condrieu, par exemple.
Dans la vallée du Rhône, la betterave.
Mais non, laissez les vignes aux minéraux.
La betterave rôtie à la place de la côte rôtie.
C'est bon ça. Bon allez, on revient dans quelques instants, direct du Salon international de l'agriculture. Et d'ailleurs, tu parles de vin, mais ça tombe bien, parce que Invino, dans moins d'un quart d'heure maintenant, notre émission d'Alain Marty, entre autres sur l'économie du vin, se fera en direct du salon. Donc voilà, restez bien à l'écoute de Sud Radio tout au long de cette semaine spéciale.
Sud Radio,
ça roule.
En direct du Salon de l'agriculture.
Sud Radio, ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et toujours à parler jusqu'à la fin de ça roule du fameux biocarburant. On en parle du bioéthanol avec Sylvain Demour qui est le secrétaire général du syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Juste avant la petite pause, je me permettais de vous poser la question quid de l'agriculture en France aujourd'hui. Ça veut dire que puisque nous sommes en direct du Salon international de l'agriculture, est-ce que de plus en plus d'agriculteurs se mettent à produire, on va dire, la matière première pour le bioéthanol. Et est-ce que demain, la France peut entièrement rouler avec ça ou pas?
Alors, tout est progressif. Tout est progressif. Aujourd'hui, quand on produit une betterave, elle nourrit les bêtes. C'est la partie pulpe. Elle vous sert pour votre café et elle fait avancer votre voiture. Elle fait les deux.
Alors,
elle n'y peut rien.
Elle sert pour le café, on va expliquer. Hein. C'est parce qu'on produit du sucre à partir de la betterave. Parce que sinon, moi, je ne mets pas de betterave dans mon café le matin.
Tout à fait.
L'accord n'est pas terrible.
Et le sucre qu'on ne peut pas utiliser pour faire du sucre, on en fait effectivement du bioéthanol. Combien on utilise de terre aujourd'hui? C'est moins de 1% de la surface agricole utile française. Donc c'est très peu. Quand on enlève tout ce qui va à l'alimentation, ça fait 0,6%. Est-ce qu'on peut grandir? Oui, l'évidence, on peut grandir en étant raisonnable. Et puis la chance qu'on a, c'est qu'on produit aujourd'hui plus d'éthanol en France qu'on en consomme, on exporte. Donc quand la consommation française augmente, et bien simplement on réduit les exportations. Et puis une autre chance également, plutôt une compensation d'un problème qui existe, c'est qu'aujourd'hui du sucre, on en produit trop. Il faut en produire moins, donc on peut mettre davantage de betteraves dans l'alcool, sans pour autant augmenter nos surfaces. Alors, donc oui, il y en aura pour tout le monde, petit à petit, progressivement, dans des voitures qui consomment de moins en moins, qui sont de plus en plus hybrides, donc dans lesquels on pourra avancer progressivement vers quelque chose de plus décarboné. Et puis il y aura aussi également d'autres solutions, il faut le dire.
Alors Sylvain, moi je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, je le suis plus pour l'automobiliste. Mais j'entends souvent dans les médias les débats sur le prix du litre de lait, la juste rémunération du producteur, la difficulté du monde rural, la difficulté des agriculteurs. C'est une réalité, sinon on n'en parlerait pas. Est-ce que la filière éthanol ne peut pas être une solution pour l'agriculture française plutôt que toujours l'envisager comme un problème sur et ça, peut-être ça va provoquer ceci et cela? Peut-être que c'est juste une solution pour permettre à une filière de se développer.
C'est tout à fait une solution pour la filière sucre aujourd'hui. Comme j'expliquais, il y a plutôt trop de sucre aujourd'hui sur le marché mondial. Donc faire un peu plus d'alcool, ça permet d'équilibrer. On en mange, mais voilà, il faut manger pas trop. Et puis voilà, la demande augmente, mais pas suffisamment. Et il faut se modérer comme en tout. Voilà, donc il y a une solution grâce à l'éthanol pour aujourd'hui atténuer la crise du sucre qui existe au niveau européen. Donc on va continuer à progresser dans la production. Et puis ça apporte effectivement une solution pour le revenu des agriculteurs qui ont besoin d'une diversification. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est du bon sens paysan.
Quel impact la réalité de ce monde d'aujourd'hui? Alors, on a entendu les dernières informations au niveau des constructeurs français automobiles. Hein. Vous allez voir que le coronavirus, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont faites en Chine, comme les nouvelles technologies, comme certaines pièces Volkswagen, par exemple, ou Fiat qui ne peut pas livrer ses voitures, etc. Est-ce que tout le contexte et tout le concept comme ça mondial peut avoir un impact fort sur la production de bioéthanol en France?
Alors pour ce qui est de la production, donc Dieu merci...
La revente après, parce que vous ne produisez que pour le marché français?
On produit pour le marché français, on produit également pour les marchés limitrophes. Donc on est exposé vers les exportations, mais surtout vers l'Europe. Donc il n'y a pas directement d'impact.
Où est-ce que ça marche vraiment l'éthanol en Europe? C'est la France qui est porteur.
La France est vraiment numéro un. La France est leader. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Europe s'y met aussi. Alors, elle s'y met en commençant par le E10. Et ça, c'est le grand changement.
D'accord.
On a passé 50% de parts de marché au mois de janvier pour le sans-plan 95-10. Eh bien, ailleurs en Europe, on passe à l'E10. En Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, on y pense, en Espagne, tous les pays de l'Europe de l'Est sont passés à l'E10. Et ça, c'est la grande nouvelle. C'est qu'avec le problème de décarbonation des transports, l'E10, c'est vraiment la solution tout de suite pour la plupart des pays européens. Et derrière, il y a le 85.
Je veux qu'on le rappelle à vous tous, peut-être qui hésitez de temps en temps entre le 95 E10 en disant « Ah non, j'ai pas trop confiance, je préfère mettre du sans-plomb 95 tout court ». On va le rappeler, Sylvain, dans le sans-plomb 95, il y a de l'éthanol aussi.
Il y en a déjà, et dans le 10, il y en a 10%. Donc évidemment, il y a zéro problème. Donc écoutez les constructeurs qui ont dit que les véhicules étaient compatibles depuis 2000. Voilà, donc inutile de s'inquiéter. Le 10, ça marche très bien. C'est même le carburant d'homologation. On teste les véhicules en Europe depuis 2014 avec le 10. Ils sont faits pour ça.
Est-ce qu'il y a des véhicules pour lesquels il ne faut pas ni poser de boîtier et surtout pas rouler à l'éthanol, des véhicules essence?
Les véhicules avant 2000, voilà, il vaut mieux s'abstenir, sauf ceux qui sont compatibles déjà avec...
Vous avez au SNPA fait une liste, hein, une nomenclature de tous les véhicules. Il y a un site internet pour ça?
Il y a un site internet pour ça. Donc vous avez e10.fr qui vous donne directement la liste des véhicules compatibles avec le 10. Donc presque tous les véhicules depuis 2000, et en tout cas depuis 2011, c'est absolument 100%. Et puis vous avez un site qui est info85.fr, où vous allez également voir quels sont les boîtiers que vous pouvez installer, est-ce qu'il en existe pour votre véhicule, et auprès de qui vous pouvez ensuite vous approvisionner.
Alors j'ai testé aussi un véhicule, je l'ai en tête, parce que c'est le Honda CR-V hybride. Ce véhicule, il roule, c'est un hybride essence. Est-ce que sur un véhicule neuf de type hybride essence, on peut en plus poser un boîtier éthanol? Parce que là, j'ai envie de dire, on ne consomme plus rien. Hein.
Ça, c'est génial. Effectivement, l'hybride, on sait que c'est l'avenir parce que ça permet de consommer moins. On recharge en freinant, on recharge sa batterie. Et dans les véhicules hybrides, on l'a vu sur un certain nombre de véhicules Toyota, pour citer la marque. L'éthanol, ça marche encore mieux que l'essence, si vous voulez. C'est un carburant qui est particulièrement adapté à ces moteurs qui sont assez sollicitants, qui demandent des régimes assez élevés pour recharger la batterie. Et l'éthanol, ça marche mieux. C'est un carburant qui refroidit plus le moteur, qui a un meilleur indice d'octane. Vous vous rendez compte, le E85, c'est 103 d'indice d'octane à la pompe. On a notre 98, on a notre 95. Et le E85, c'est 103 d'indice d'octane. Donc ça marche super bien. Et le bon match, c'est d'aller effectivement électrifier son véhicule et puis de consommer de moins en moins en mettant de l'E85 qui, lui non plus, n'est pas polluant.
Au niveau des stations-service, hein.
Alors, un nouveau record est passé. On atteint, ça c'est une exclusivité Sud Radio,
sur
1742 stations atteintes à la fin du mois de janvier, début février.
1742 sur combien? On sait le
c'est
parc.
19% du parc, ouais, donc ça. Presque une station sur 5. Donc imaginez 5 stations autour de vous, il y en a une en moyenne qui propose l'éthanol. Donc ça veut dire que c'est accessible pour tout le monde, à peu près partout en France.
Le développement de l'éthanol est donc
accélération.
Voilà, c'est extrêmement exponentiel. Demain, les constructeurs français vont suivre le mouvement et nous proposer des motorisations ou flex-fuel ou uniquement éthanol.
Alors ça, c'est eux qui vont le décider. Évidemment, on leur parle et on leur parle tous les jours, on est en contact. On sait que certains constructeurs ont déjà franchi le pas. Vous avez vu l'an dernier, Ford avec son Kuga. Il a fait des merveilles, il en a vendu deux fois plus qu'il attendait.
Merci Teddy Riner.
Il en a vendu 6 000 au lieu d'un plan à 3 000, donc ça a marché vraiment très bien. Il y a une attente des Français pour cela. On sait que Ford va relancer des véhicules dans un an, hein, et ils nous le diront quand ça sera le moment, puis d'autres constructeurs y pensent. Évidemment, nous on pense très fort aux constructeurs français. Ça c'est une évidence.
Et on a du mal à y aller quand même, faut dire la vérité, hein, parce que moi aussi je les côtoie, les constructeurs, et j'avoue que du côté des constructeurs français, sur l'éthanol, j'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression qu'ils étaient là au tout début, qu'ils ont voulu lancer la filière. Et quand ils ont lancé la filière, malheureusement, le réseau de stations-service n'était pas au rendez-vous. Donc, flop commercial. Et ils ne s'en sont jamais remis. Mais aujourd'hui, les stations-service, on le voit, ça prend. On ouvre tous les jours, je crois, 4 stations.
C'est 2 stations par jour depuis le mois de septembre dernier. Donc, c'est effectivement une très forte progression. Et ça les interroge. Ils s'interrogent. Ils sont en train de réfléchir à la question. Je pense qu'il faut regarder devant. Voilà, ils ont un problème industriel avec Effectivement, le moteur thermique, comment le faire survivre ? Eh bien, les moteurs thermiques, on aura le droit d'en acheter en 2040, hein, ça ne sera pas interdit, dès lors qu'ils fonctionnent avec des énergies non fossiles. Et l'éthanol, c'est une énergie non fossile. Donc, pour sauvegarder l'emploi, y compris l'emploi industriel, tout ce savoir-faire des moteurs thermiques, il faut pouvoir développer des moteurs à l'éthanol. Et nos Français, ils ont une extraordinaire chance, c'est qu'ils ont un laboratoire avec la France où finalement tous les Français peuvent accéder à ce carburant, donc il faut y aller.
Et puis je me souviens quand même, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Je me souviens un jour, j'étais dans le bureau d'un certain Sylvain Desmours, qui est ici aujourd'hui, et il m'a dit, écoute, essaye l'éthanol et tu verras, ton véhicule ne tombera pas en panne. Et je faisais partie de ceux qui me disaient, moi j'ai une association d'automobilistes, 40 millions d'automobilistes, je ne peux pas envoyer les gens vers quelque chose qui ne fonctionnerait pas. J'en suis à 200 000 km avec de l'éthanol et zéro problème.
Zéro problème, tout à fait.
Le coût, on n'en a pas parlé d'ailleurs.
Le coût, 69 centimes le litre.
Oui, ça c'est en station, mais le coût de production. C'est-à-dire que quand on prend un litre d'éthanol, il nous a fallu combien de kilos de betteraves, par exemple, pour être extrêmement basique ?
Alors, combien de kilos de betteraves ? Je vais vous donner un chiffre simple pour que ça soit plus concret. Eh bien, disons qu'un mètre carré de betterave, ça vous fait presque un litre d'éthanol. Vous voyez ?
Un mètre carré de betterave, ça vous fait presque un litre d'éthanol. D'accord.
Donc, sur 10 000 mètres carrés, sur un hectare, vous avez 10 000 litres d'éthanol chaque année. Donc ça, c'est très productif. Donc ça prend pas trop de surface, c'est très productif. Donc c'est quelque chose qui vous permet de aujourd'hui, on produit plus en France que la demande française. Ça vous permet d'avancer. Alors qu'il y a de l'éthanol dans toutes les essences et qu'on remplace déjà plus de 7% de l'essence française par du bioéthanol. Vous voyez, ça commence à peser.
Non, et ça c'est important puisque c'est effectivement de l'actualité d'aujourd'hui hein, sur les carburants. C'est effectivement sans doute l'une des solutions bio en plus pour demain puisque vous l'avez dit vous-même, c'est un des carburants les moins polluants entre guillemets puisqu'on voilà, on sait tous que le carburant quel qu'il soit, il a un côté polluant. Même les batteries électriques hein, sont polluantes. Faut pas croire que c'est pas polluant.
Il y a que la voiture à pédale qui pollue pas. Hein, donc.
Ouais. Ou moi sur mon vélo ou sur mes skis où ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait, j'ai des cuisses et des jambons tellement j'ai mal aux pattes.
Ah, mais le jambon c'est très bon.
Ça dépend. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Sylvain Desmours. On aura l'occasion régulièrement de faire un point sur ce qui se passe avec l'éthanol, le bioéthanol exactement. Et puis je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national
des producteurs d'alcool agricole.
Allez, c'est d'un autre alcool. Enfin, non, monsieur le ministre de l'Agriculture a dit que ce n'était pas de l'alcool. C'est une autre de nos passions dont nous allons parler tout de suite. Merci beaucoup. C'est Alain Marty qui nous parle vin tous les samedis et dimanche de midi et demi à 13h sur Sud Radio. Alain, bonjour.
Bonjour, bonjour Laurence, bonjour Pierre. Oui, on passe d'un alcool à un autre alcool, avec modération. Et le grand plaisir, c'est maintenant, là, vous arrivez là. On vous attend avec plaisir, avec Philippe Aubrac et tous nos invités. Quoi.
Le sommaire de l'émission aujourd'hui, puisque vous êtes sur le Salon International de l'Agriculture.
On va parler du meilleur vin du monde avec le château de Calissa, nous sommes en Provence. Du meilleur cidre, le cidre normand. On parlera également de fromage, de charcuterie, sans oublier la bière de Vendée. Voilà, on vous attend. Hein.
Et vous êtes
on arrive.
Eh ben on arrive.
Stand, le village semences, vous ne pouvez pas vous tromper, ce sont les gens les plus sympas du salon. Voilà.
Avec ceux de l'Occitanie.
En Occitanie, on est
avec ceux de l'Occitanie. Allez, on vient vous faire un bisou en direct. À tout de suite.
Laurence, à tout de suite, Pierre.